On continue un petit peu l'idée de la semaine passée. Y a-t-il quelqu'un qui se rappelle de ce qui s'est passé la semaine passée? Entre parenthèses. On parle de samedi, bien entendu. On parle de la vraie Pâque des Juifs. On a parlé de la Pâque des Juifs, que c'était la vraie Pâque que l'Éternel avait instituée. Puis c'est cette journée-là que Jésus est mort sur la croix, la journée de Pâque. Il n'est pas ressuscité à Pâque. Il est mort à la journée de Pâques. Il est ressuscité 3 jours et 3 nuits plus tard. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas là pour continuer la fête moderne qui est instituée par le gouvernement ou par l'Église catholique. Nous, ce qu'on veut souligner, c'est la fête biblique. Comment est-ce que les Juifs, eux autres, fêtent à cela? Puis il faut pas oublier que pour les Juifs, cette fête-là, la fête de Pâques, durait 8 jours. Ça durait pas juste une journée. Il y avait la journée de Pâques, mais il y avait une semaine complète de la semaine des pains sans levain qui fait partie de la fête de Pâques. Donc, aujourd'hui, on est là pour eux, pour la vraie fête de l'Éternel, selon la date qu'eux autres sont cette année. On est encore dans le temps de la Pâque, puis on est la dernière journée de la semaine des pains sans levain. Donc, qui était pour eux une journée qui devait être une journée fériée, comme, qui ne travaille pas cette journée-là, un sabbat, une journée de repos, puis en même temps, ça tombe en même temps que le sabbat à eux. Mais on veut le souligner encore. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on veut que tout le monde sache ce qui s'est passé cette journée-là. On a vu beaucoup de choses la semaine passée. C'est à quoi la racine de ce sujet-là, de la fête de Pâques, la Pâque des Juifs. Mais aujourd'hui, on va comprendre un autre aspect de la Pâque qui veut dire, selon le titre que j'ai donné au message, la Pâque, c'est la victoire du Seigneur Yeshua, le Christ. Pâque, tout le monde pense, ah, la Pâque, il est mort. Oui, c'est vrai qu'à la Pâque, Jésus, il est mort. Mais c'est là qu'a remporté la plus grande victoire qu'il a jamais eue dans toute la création. Il s'est passé des choses extraordinaires dans ce combat-là qui a terminé à la croix. Mais pour lui, Jésus, ça s'est pas terminé là puisqu'il est ressuscité le troisième jour. Il a vaincu la mort, il a un paquet d'affaires, un paquet de bénédictions grâce à son sacrifice qu'il a accompli à la croix. C'est rare que tu vois ça, que pendant une guerre, que c'est en se laissant mourir que tu gagnes la victoire. Mais c'est ce que Jésus a fait. C'est dans sa mort qu'est venue la victoire. C'est pas dans le combat puis écraser l'autre. Par sa mort, il a été écrasé l'autre. Mais c'est pas lui qui l'a écrasé. C'est sa victoire qui l'écrase. C'est Dieu qui l'a accompli. On va voir aujourd'hui la victoire par la mort et la résurrection de notre Seigneur. On va voir des points qui sont la base de notre foi. C'est important de comprendre c'est quoi l'Évangile, que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de quoi? La bonne nouvelle que le Christ, il est mort, puis qu'il est ressuscité. C'est le centre du message. Ça, il faut le savoir, puis pas juste le savoir, il faut en être pleinement convaincu. Puis pas juste convaincu pour les autres, pour nous, parce que ça nous donne d'être sauvés. La mort du Christ nous donne d'être sauvés. Son sang qui était versé à la croix, c'est le sang de la nouvelle alliance. Quand on fait la Sainte-Sainte, j'en ai pas parlé la semaine passée, mais je vous le dis à travers qu'on va voir aujourd'hui. Quand on fait la Sainte-Sainte, on répète cet événement-là une fois par mois, des églises à toutes les semaines, bon... Mais ça, la Sainte-Cène, c'est la Pâque. Jésus a institué la Sainte-Cène la journée de la Pâque. Il a dit à ses disciples, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous. Puis là, il a mangé la Pâque avec ses disciples. Puis c'est pendant le repas de la Pâque qu'il a pris le pain. Faut toujours se mettre dans le contexte que Jésus, c'était l'agneau de la Pâque. Puis quand tu comprends ça, lui il a rompu son corps puis que tout le monde en a mangé, comme à la fête de Pâques, il fallait que tout le monde mange de l'agneau qui avait été immolé pour que tout le monde en mange puis qu'il soit mangé au complet. Fait que Jésus était l'agneau de la Pâque, prophétisé par la fête qui se perpétuait d'année en année depuis 1500 ans. Elle a eu son accomplissement cette journée-là, quand Jésus est mort, cette journée-là. Parce qu'il était avec ses disciples dans la soirée, puis dans la nuit, il était resté debout, puis le lendemain matin, il s'est fait assassiner. C'était la journée de Pâques, parce que pour les Juifs, la journée commence pas à minuit, elle commence à brunante. Fait qu'à brunante, c'était la journée de Pâques, puis il est mort la journée de Pâques. Puis il était l'agneau que tout le monde devait manger, puis c'était son sang de cet agneau-là qui nous couvre maintenant, comme le sang avait, couvrait les Juifs pour les protéger du jugement à venir. Faut se rappeler que c'est le centre de l'Évangile. Puis il faut garder notre foi dans cela, parce que c'est ça que Dieu veut qu'on ait dans notre cœur, puis qu'on garde dans notre cœur comme pleine assurance. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 1 à 5, l'apôtre Paul, il dit, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré et par laquelle vous êtes sauvés. » Voyez-vous, l'Évangile qu'eux autres avaient reçu, c'était la bonne nouvelle annoncée par Paul, c'est la bonne nouvelle de Jésus, puis il dit, « Par l'Évangile, vous êtes sauvés. » Si, il y a une condition, vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Ça veut dire qu'il est possible de se détourner du message de l'Évangile puis se mettre à croire en d'autres choses pour notre salut. Au verset 3, puis il nous explique c'est quoi l'Évangile. « Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, puis qu'il est apparu à Céphas puis aux douze. » Dans ce message-là, là, on vient de comprendre les bases de la foi, dans quoi qu'on croit, puis dans les choses qu'il faut garder. Il y a quatre points là-dedans. Il y a le point que Jésus est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, puis qu'il est apparu. Il a donné des preuves qu'il est ressuscité. Il est apparu à plusieurs reprises aux apôtres, puis même un coup, il était à 500 personnes qui étaient réunies, puis qui a apparu à tout le monde, pour démontrer qu'il est vraiment ressuscité. Amen. Ah, est-ce que vous croyez cela? C'est ça le message central de l'Évangile. Si vous croyez qu'il est mort pour vous, puis qu'il est ressuscité, puis qu'il est à la droite de Dieu, vous avez compris le message, le centre du message. Maintenant, il faut marcher avec lui. On a vu que dans l'Ancienne Alliance, il y avait trois points qui ressortaient plus forts que les autres. À quoi qu'elle servait la Pâque? La Pâque, là, quand ils ont célébré la Pâque, il faut se rappeler que le peuple juif était esclave en Égypte, puis là, il était comme battu et maltraité. C'était un dur fardeau. La vie était amère. Puis il priait l'Éternel pour sortir de là. Dieu leur envoyait un libérateur avec son aide, bien entendu. Puis là, il leur a dit, vous allez célébrer une Pâque. On va appeler ça la Pâque, qui veut dire passer par-dessus. Puis ça, il dit, vous allez prendre un agneau, vous allez l'offrir en sacrifice, vous allez prendre le sang, vous allez mettre sur le cadrage de porte. Puis vous allez, quand on va faire cela, il dit, vous allez être tout habillé, prêt à partir, parce que quand ça va se faire, ils vont vous jeter dehors, vous allez sortir avec précipitation, puis vous allez emporter avec vous une grande richesse. Parce que les Égyptiens ont donné le stock en plus pour leur dire de s'en aller. Fait que par la Pâque, Dieu faisait des choses là incroyables comme qu'il s'était jamais fait. Il a donné un jugement aux dieux de l'Égypte, parce que les gens de l'Égypte qui maltraitaient les Juifs, ils faisaient ça dans le nom de leur Dieu, puis il n'y avait pas la crainte du Dieu d'Israël. Mais Dieu d'Israël, qui est le Dieu vivant, a jugé les dieux de l'Égypte. Puis quand il y a eu la Pâque qui a été faite, le premier-né de chaque famille est mort, dans les humains et comme dans les animaux. Ça a été une grande mortalité dans le peuple. Le peuple a été frappé d'un jugement de Dieu. Mais pour les Juifs qui croyaient en Dieu, qui ont célébré la Pâque, qui ont mis le sang, ils étaient épargnés. L'ange de la mort passait par-dessus, puis il n'y avait pas de mortalité. Il y avait la vie sauve à cause du sang. Voyez-vous, c'est une belle affaire, c'est un bel exemple qui a rapport avec la fête de Pâque à travers Jésus. Ça a permis aussi la fête de Pâques, ça a démarré leur libération du peuple parce que le peuple était esclave en Égypte. Ils ont été libérés, puis en plus, ça leur a donné d'être enrichis par Dieu. Parce que dans le temps qu'ils étaient esclaves, ils étaient pauvres. Puis quand Dieu les a sortis de là, ils sont sortis riches. Dieu a béni son peuple, qui ont eu une grande richesse qui leur ont été donnée, que Dieu a pourvu pour tout ce qu'il aura de besoin pour la suite de leur vie. Puis la Pâque aussi, ça a débuté la marche vers la terre promise. Parce que le fait que tu sortes de l'Égypte, tu sors de ton esclavage, ça a le même parallèle pour nous. Quand tu es en Jésus, tu donnes ta vie au Seigneur, tu acceptes Jésus comme ton sauveur avec repentance, tu veux changer de vie, il te sort de ta vie, ton passé, t'en es libéré, puis là, tu marches vers la terre promise, la même affaire. C'est la même comparaison. Mais la révélation complète du sens de Pâques n'avait pas encore été donnée. Dieu a installé ça en prévision de la Pâque qu'il voulait faire à travers Jésus. Parce que faut comprendre que les fêtes dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Les fêtes annoncent un message prophétique, des choses qui étaient pour s'accomplir, que Dieu avait préparé d'avance, avant même le début de la création. C'était dans son plan d'envoyer son fils Jésus venir mourir sur la croix. C'était dans son plan que Jésus sera l'agneau de Dieu de la Pâque, l'agneau de la Pâque qui sera offert en sacrifice immolé pour le pardon des péchés de tout le monde, puis nous épargner les conséquences à venir. Puis la révélation de cela, ça a commencé avec Jean-Baptiste. Lorsqu'il a commencé lui-même, Jean-Baptiste, à faire son ministère, il avait été envoyé baptiser les gens, puis avec un message par celui qui l'avait envoyé, il a dit, « Celui que tu verras l'Esprit descendre comme une colombe sur lui, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Quand Jean-Baptiste baptisait tout le monde, Jésus est venu à lui, il s'est fait baptiser, le Saint-Esprit a descendu comme une colombe, puis tout de suite après, Jean-Baptiste a commencé à dire, « Voici. » Si on voit ça dans Jean 1, 29, ça dit, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste a commencé à amener la révélation sur Jésus pour dire que c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui va enlever le péché du monde. Il ne comprenait pas tout ce qu'il en était, pour comment c'était pour s'accomplir, mais il a été envoyé pour l'annoncer. Puis il a commencé à en parler tout de suite au début de son ministère, quand il a vu Jésus recevoir le Saint-Esprit. En ces événements de la Pâque, le Seigneur, il est mort 3 jours et 3 nuits. Puis ça, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Hein. Il a dit, de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, il faut que le Fils de l'homme passe 3 jours et 3 nuits lui-ci. Puis ça, je vous dis ça juste en passant pour vous dire qu'il n'y en a pas de Vendredi Saint, ça n'existe pas. Ça, c'est encore la fête catholique qui inventait ça. C'est pas vendredi puis dimanche, les deux journées. Faut décrocher de ces idées-là, c'est des faussetés. Jésus sera mort dans le milieu de la semaine, puis il est ressuscité dans la fin de semaine, mais là, j'en dis pas plus pour le moment, parce qu'il y a trop d'affaires à rentrer là-dedans. Mais ce que je veux en venir, c'est qu'il est resté 3 jours et 3 nuits décédé, puis il est ressuscité suite à cela. Puis pendant son temps, que le fait de mourir, puis le fait de passer son temps dans la mort et de ressusciter, il a remporté les plus grandes batailles qui nous permettent aujourd'hui d'obtenir plusieurs grandes bénédictions imméritées. Des bénédictions qu'on mérite pas. Quand le fait que Jésus y expire sa croix, sa mort venait d'être constatée, les victoires étaient déjà gagnées. Puis il y a des grandes bénédictions qu'on a aujourd'hui, c'est à cause qu'il a expiré sur la croix, qu'il a versé son sang, puis il en est mort. Puis c'est annoncé d'avance dans les écrits des prophètes qu'il fallait qu'il prenne sur lui nos péchés, nos transgressions, nos maladies, puis il les expie. Je ne veux pas rentrer nécessairement dans qu'est-ce qui s'est passé là, mais je veux vous parler des bénédictions qu'on a maintenant en Jésus, des conséquences de sa mort. La première des choses qu'on remarque dans la parole de Dieu qui est importante de comprendre, autant qu'à la Pâque, Il s'est passé une victoire contre le peuple d'Égypte. Hein? Le peuple d'Égypte, ils ont parti avec à la poursuite du peuple d'Israël. Non seulement ils avaient perdu un membre de leur famille, puis deux animaux, mais en plus, là, le peuple décolle, puis là, eux autres repartent après. Le peuple d'Israël a traversé la mer parce que la mer s'est séparée. Il y avait un mur d'eau chaque bord, puis le sol il était à sec. Ils ont passé à sec dans le milieu. Puis là, quand le peuple d'Égypte ils ont passé, l'eau s'est refermée, puis tout le peuple, l'armée au complet a été détruite. Fait que les Égyptiens, ils ont mangé toute une dérouille cette journée-là. Autrement dit, les Égyptiens, ils étaient, si on regarde ça au sens spirituel, c'était le diable. Ça représentait le diable qui opprimait le peuple de Dieu. Puis Dieu a accordé une grande libération au peuple de Dieu au point que le diable était détruit dans une image. Mais ça s'est passé vraiment comme cela aussi quand Jésus est mort sur la croix. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 2, le verset 14 et 15, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est ce qu'on participe présentement, il y a également participé lui-même en parlant de Jésus, afin que par la mort, Jésus, là, par sa mort, il a anéanti celui que la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, nous. Voyez-vous qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé une victoire incroyable la journée que Jésus est mort. Le diable puis toutes ses armées démoniaques ont été anéanties, pulvérisées, détruites. Bon, puis ils ont été écrasés. Le Seigneur, il dit, par sa mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort. Celui qui a la puissance de la mort, c'était le diable. C'est le diable qui gardait dans la mort l'ensemble de l'humanité, depuis Adam et Ève jusqu'au Christ. Jésus, en vainquant le diable, il l'a vaincu par sa mort, puisqu'il a expié les péchés. Le diable n'a plus rien de concret pour retenir les gens dans ses griffes. Puisque si une personne, elle invoque le sang de Jésus, puis elle demande pardon, est libérée, purifiée, il n'y a plus d'armes dans lesquelles se confier. La victoire est possible à tous les humains de la planète. Parce que Jésus, il veut sauver tout le monde. Puis il veut offrir ce cadeau-là à tout le monde. Oui, merci Seigneur. Par sa mort, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, puis il nous a délivrés, nous, qui avions la crainte de la mort, parce qu'on le sait, qu'on est pécheurs, puis on n'était pas prêts à mourir dans notre état de péché. Des fois, on ne s'en rendait peut-être pas compte, mais aujourd'hui, je suis 100% conscient que j'aurais pas aimé, aujourd'hui, avec ce que je sais, j'aurais pas aimé mourir dans ma vie de péché avant. Notre Sauveur, quand il est mort sur la croix, c'est un autre verset dans Colossiens 2:15, ça complète l'idée qu'il a dépouillé l'ennemi de nos âmes. Puis on le voit ça dans Colossiens 2:15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, puis les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Fait que Jésus, en mourant sur la croix, il a pas juste vaincu celui qui a la puissance de la mort, il a aussi dépouillé. Quand on parle de dépouiller, c'est un peu la même idée que quand une armée combat une autre armée. Là, tu as tué tout le monde sont à terre, puis là, après ça, tu les enlèves toutes leurs armes, tu fouilles leurs poches, puis tu ramasses toutes les richesses, tout le stock, tu ramasses tout, Jésus a tout ramassé, tout est à lui. Anyway, Jésus était le créateur de toutes choses. Mais vu que le diable a reçu l'autorité par Adam et Ève de régner sur la planète puis d'en avoir la gloire, c'est un usurpateur, le diable, c'est un voleur de la gloire. Et la gloire appartenait à Dieu, puis le diable, lui, il a détourné la gloire pour lui, puis il gardait le monde captif dans le péché, puis il pense que tout est à lui, mais c'est pas à lui. Tout appartient au Seigneur des Seigneurs et au Roi des Rois, le Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui, puis il a été dépouillé, il n'a plus rien comme arme. Si le diable essaie de vous faire croire, « T'as fait un tel péché, je te tiens encore captif », c'est juste notre ignorance qui va faire qu'on va le laisser faire. Parce que si on sait vraiment que le sang de Jésus nous purifie, on va demander pardon au Seigneur, puis on n'y a rien pour s'accrocher après nous autres. On peut être victorieux sur toute la ligne. On a l'autorité, puis on a reçu son autorité au Seigneur. Jésus l'a donné à ses disciples. Si on continue avec l'idée, qu'est-ce qui s'est passé à la mort sur la croix? Fait que là, on sait qu'on a la victoire sur le diable. Jésus l'a déjà vaincu. Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si le diable est vaincu, il n'a pas été enlevé de sur la terre. Au contraire. Il y a un autre verset qui nous dit que le diable, il a été précipité sur la terre. C'est qu'avant, le diable siégeait dans les cieux, puis accusait le peuple de Dieu, il accusait continuellement à cause du péché. Mais là, il a été débarqué de là, il a été précipité sur la terre, puis il sait qu'il n'y a plus grand temps. Puis ça s'est accompli à la mort du Seigneur. Mais là, c'est à d'autres versets que j'aurais pu vous emmener, mais là, si vous auriez voulu rester jusqu'à l'après-midi, ça aurait été correct, mais là, je vois pas, il y avait trop de sujets à parler. Mais ça va jusqu'à là. En Jésus, on a la victoire, le diable n'a plus de pouvoir, il n'a plus d'armes pour se confier, puis en plus de ça, il n'est plus devant Dieu. Il va juste de temps en temps pour aller parler, mais il ne siège plus là en autorité. Il a été précipité. Puis là, c'est pour ça qu'on a encore un combat à livrer. Il est encore là, il se rasseille. Si on oublie ce qu'on est en Jésus, là, il nous attaque, mais on peut le renverser. La Bible a dit, « Résistez au diable, puis il fuira loin de vous. » Résistez-lui avec une foi ferme. Parce que les mêmes tribulations sont de nos frères dans le monde. Fait que on a la victoire à cause du sang de Jésus. Une autre chose que le Seigneur a vaincu quand il est mort sur la croix, c'était en donnant son dernier respect, il n'y avait plus de possibilité qu'il tombe dans un péché. Faut comprendre que du temps que Jésus était sur la terre, il était tenté en toutes choses. Des fois, on se fait achaler, puis on trouve ça fatigant que le diable est après nous autres, puis il nous tente, puis il nous met des mauvaises pensées, ou des mauvaises idées, ou il nous oppresse. On a des combats, mais on a quelques combats. On n'a pas des combats sur tout ce qu'il y a dans cette vie. Mais Jésus, lui, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Pas une seule fois qu'il s'est laissé aller à rentrer dans un péché. Parce qu'il l'aurait fait, mais il aurait été pécheur, lui, avec, puis il aurait eu besoin d'un sauveur. Mais il a pas tombé dans le péché. À cause qu'il était sans péché, il pouvait prendre la place des coupables. Un coupable peut pas prendre la place des coupables. Ça prenait quelqu'un d'innocent qui paye à notre place. Mais Jésus, en allant à la croix, il savait que sa guerre contre le monde était pour arrêter là. Dans Jean 16, 33, Jésus nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus a vaincu le monde. Il n'a pas tombé dans aucun péché. Aucune des tentations de ce monde n'a pu l'amener à tomber. Puis, le fait qu'il meure à la croix, mais il y avait la victoire officielle, parce jusqu'au dernier souffle, il aurait pu se laisser aller. Il a remporté la victoire, puis il a pas tombé dans aucun péché. Fait que c'est une autre affaire qu'il faut comprendre, que quand que tu viens à Jésus, mais Jésus, lui, à cause qu'il n'a pas tombé dans aucun péché, ça dit qu'il était déclaré un juste. Et quand tu viens à Jésus, mais il donne sa justice. On est maintenant appelé des justes, pas parce qu'on est meilleur que les autres, parce qu'on a mis notre foi au Seigneur, la justice de Jésus est sur nous. Son sang nous a purifiés, maintenant le Seigneur, le Père, quand il nous regarde, il voit Jésus. Il nous voit juste comme lui, Jésus, est juste. Puis si on tombe dans une affaire, on demande pardon, puis le sang de Jésus nous purifie de suite, on peut marcher à jour avec le Seigneur sans arrêt. Ce qui nous permet d'obtenir aussi toutes les autres promesses. Un autre beau point ça là, on commence à rentrer un peu plus dans les points que ça nous accorde à nous, le fait que Jésus est mort sur la croix. Ben, je dis la croix, mais c'est pas assuré que ça soit la croix. Ça peut être un morceau de bois, juste un piquet. C'est la tradition qui dit ça, que c'est une croix. Bon, on est habitué de dire ça, c'est pas mal de dire que c'est une croix. Ça peut être un poteau, ça n'a aucune importance. Grâce à sa victoire au Seigneur, cela nous permet à nous, qui étaient des morts vivants, on était vivants humainement parlant, mais au-devant Dieu, on était morts. On était des morts vivants. Puis le fait que Jésus est mort sur la croix, ça nous a permis de nous ressusciter. C'est quatre choses. On est déjà présentement des êtres ressuscités à cause que Jésus a payé, ce qu'il a payé à la croix. C'est une autre victoire qu'on a aujourd'hui. On a la possibilité de ressusciter. Puis Jésus, pour qu'on puisse ressusciter, il fallait qu'il efface la liste de toutes les condamnations qui étaient sur nous. Parce que, selon chaque fois qu'on a transgressé la parole de Dieu, la Bible appelle ça un acte. Un acte, c'est un contrat de notaire, comme. Ou ça peut être un acte, ça peut être un papier, comme le juge te donne quand il donne ta sentence. À cause de telle circonstance, telle affaire, tout ça, moi, il arrive, t'as telle condamnation. Ça, c'est un acte. C'est l'acte. Mais Jésus, quand il est mort sur la croix, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il l'a enlevé, on est à jour, on est comme si on repart une nouvelle vie flambant neuf en Jésus. C'est quelque chose. Alors regardez bien comment ce qu'il dit ça dans Colossiens chapitre 2, les versets 13 et 14. Vous qui étiez morts, faut pas penser qu'on était des bons gars devant Dieu, là. On était des morts aux yeux de Dieu. Puis même pire que ça, on était des ennemis de Dieu avant de venir au Seigneur. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. C'est quelque chose. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Tout ce qu'on a fait de mal depuis le début de notre vie jusqu'au moment où on reçoit le Seigneur avec repentance, mais il efface tout ça, le mal qu'on a fait. On a reçu une grâce, un cadeau. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte, c'est le papier que je vous disais. Le papier que le juge vous donne parce que vous êtes déjà condamné. Mais quand tu arrives en Jésus, cet acte-là, il la prend et la jette dans les poubelles. Dans la mer de l'oubli qu'on voit dans l'Ancien Testament, il y a un verset qui dit ça. Puis, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Voyez-vous, quand Jésus a été crucifié sur la croix, il n'y avait pas juste lui qui était là. Cloué à la croix, il y avait mon acte à moi avec tous mes péchés. Puis il y avait votre acte à chacun de vous. Fait qu'il n'y avait pas, hein, l'ensemble de l'humanité, tous les actes, il était là, tout écrit un par-dessus l'autre, là, cloué avec Jésus à la croix. Fait que quand Jésus est mort sur la croix, ça l'a effacé tous les actes qui condamnaient tous ceux qui étaient pour venir à lui. C'est quelque chose. Mais en fin de compte, cet acte-là est assez puissant pour sauver tout le monde sur la planète. Si les gens ne sont pas sauvés, c'est pas parce que Dieu ne voulait pas les sauver. C'est les gens qui ne vont pas à lui pour recevoir la vie. Grâce à sa victoire, ça nous a permis aussi d'être réconciliés avec Dieu. Vous allez voir qu'on n'était pas dans une condition devant Dieu pour pouvoir recevoir quoi que ce soit de Dieu avant que Jésus paye la dette de nos péchés. Dans Colossiens chapitre 1, les versets 20 et 22, il dit... Il a voulu, par lui, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même. Quand Jésus est venu sur la croix, c'est un œuvre de réconciliation. Il est venu pour réconcilier l'humanité entière envers Dieu le Père. Il dit tant ce qui est sur la terre de ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Fait que s'il y a une paix possible entre un humain et Dieu, c'est à cause du sacrifice de Jésus, son sang qu'il a versé à la croix. Alors regardez bien ce que ça dit dans le prochain verset, 21. Il dit, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers de Dieu et ennemis, comme je vous disais tantôt, on n'était pas dans une position de pouvoir recevoir quoi que ce soit de Dieu. On était des étrangers puis des ennemis de Dieu à cause de nos pensées puis par nos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Voyez-vous comment est-ce que c'est puissant, l'œuvre de Christ? Ça prend du monde pécheur, pourri, souillé, qu'aucune personne ne pouvait se laver de ses souillures. Mais le sang de Jésus qui était versé à la croix te purifie, puis ça te fait paraître pur, irrépréhensible, sans défaut, sans tache devant Dieu. La justice de Jésus, elle tombe sur nous, puis à cause de son œuvre, on est maintenant réconcilié avec Dieu le Père. Une réconciliation, ça veut dire qu'on n'était pas dans de bonne harmonie avec lui. On était séparés, on était des ennemis, que ça dit. Puis comme j'ai dit, je sais pas si c'est la semaine passée j'ai dit ça, Jésus est pas venu pour mourir pour ses amis. Il est venu pour mourir pour des ennemis. Pour nous racheter, pour nous rendre parfaits. Oui, il l'a accompli à ses amis parce qu'on est devenu amis par la suite, mais au départ, on n'était pas des amis. On l'est devenu, merci Seigneur. À cause qu'on est des réconciliés, c'est encore là une super belle affaire qui s'est passée à sa mort sur la croix. À cause qu'on est des réconciliés, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a expiré? Oui, il a dit ça, mais quand il est mort, en mourant, le voile, qui a dit le voile? C'est le voile. Le voile dans le temple, là, ça séparait le lieu saint du lieu très saint. Personne n'avait le droit de rentrer dans le lieu très saint. Il y avait juste le souverain sacrificateur. Le chef des sacrificateurs, lui, une fois par année, il rentrait pour aller offrir des offrandes à Dieu, puis il était même pas sûr de ressortir vivant. C'est quelque chose. Il avait mis des clochettes après la robe du sacrificateur, puis quand il rentrait dans le lieu très saint, il devait shaker de même, puis il shakait avec ses clochettes pour savoir, on entend une clochette, il est encore vivant. S'il était pas pur devant Dieu, il tomberait de mort là, puis il avait attaché une corde après la jambe pour le retirer. Personne n'aurait rentré là parce que c'était trop. Personne n'avait le droit de rentrer dans la présence du lieu très saint. Mais quand Jésus a expiré, le voile a déchiré du haut jusqu'en bas. Dieu a voulu nous montrer que l'accès du lieu très saint est ouvert. Qu'on peut maintenant, grâce au sacrifice de Jésus, entrer, une libre entrée dans le sanctuaire par une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Ça, c'est le verset, je voulais vous dire. Hein? Plus besoin de cordes. À cette heure, on met des cordes pour essayer de tirer le monde en rentrant dedans. Regardez dans Hébreux chapitre 10, les versets 19 à 20. C'est là que ça prend tout son sens quand tu comprends que c'est le sacrifice de Jésus, le voile est déchiré. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, il n'y a plus de voile, il est déchiré. C'est par une nouvelle route qu'a faite là Jésus, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. C'est-à-dire de sa chair. Ça veut dire que le voile, ça représentait la chair de Jésus. Puis pour que le voile soit ouvert, il fallait que Jésus meure. Le fait que Jésus est mort, c'est ça qui nous a ouvert. Là. Merci Seigneur de nous avoir ouvert ce voile-là pour nous donner accès dans les lieux très saints. Tout nous est accessible aujourd'hui à cause du sang de Jésus. Maintenant, ça s'arrête pas là. Grâce à sa victoire, cela nous permet de naître de nouveau. Ce qui est impossible avant. Dans Romains 6, le verset 3 à 4, ça nous dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort qu'on a été baptisés. » Si on parle baptisé, c'est le sens, pas le baptême d'eau, ça donne l'exemple de ce qui s'est produit quand on est né de nouveau. C'est qu'on est enseveli. Quand t'es couché dans l'eau, t'es enseveli, t'es immergé, t'es submergé, t'es baptisé. Quand tu meurs dans l'eau, c'est comme si nous, on est mort, puis on est enseveli avec Jésus. Puis quand tu sors de l'eau, tu ressuscites en nouveauté de vie. C'est ça qui est l'exemple du baptême. Le baptême, ça dit qu'on a été enseveli avec lui par le baptême en sa mort, afin, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ça, au début, ça nous dit, puisque nous avons... nous avons... c'est pas ça le point que je veux en parler, c'est... Oui, nous avons été ensevelis avec lui. Quand Jésus est mort sur la croix, tout après, ils l'ont enterré. Jésus n'était pas seul dans le tombeau. Tous les chrétiens à travers toute la planète ils ont été ensevelis en même temps que Jésus. Jésus, il dit que nous, on était ensevelis avec lui. Fait que spirituellement, ça nous est expliqué dans un autre verset, considérez-vous comme des morts au péché et comme vivants pour Dieu. C'est quand qu'on le comprend puis qu'on y croit qu'on était enseveli avec Jésus que le péché va avoir moins de puissance sur nous. C'est comme si le fait d'être à faire qu'un avec Jésus dans sa mort et dans sa résurrection, ben si vous y croyez puis que vous rentrez dans cette identité-là, que je suis une personne ensevelie, donc je suis mort, puis qu'on peut être libéré du péché à cause de ça, on n'aura plus de pouvoir, puisque demander un mort, essayer de tenter un mort de péché, il réagit même pas, il est mort. Ben nous aussi, spirituellement, on est des morts, spirituellement parlant, puisqu'on était ensevelis avec Jésus, puis on est maintenant des nouvelles personnes ressuscitées dans la gloire du Père. Fait que si on comprend ces vérités-là, ben on va rentrer dans le fait de dire que le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. C'est ça que Paul explique dans Romains aussi. Un autre beau point qu'on a en cause de la mort de Jésus, c'est grâce à sa victoire, cela permet que notre corps corrompu et mortel devienne un jour incorruptible et immortel. C'est à cause du sacrifice de Jésus. Dans 1 Corinthiens, à partir du verset 54, au chapitre 15, le verset 54, ça nous parle prophétiquement de ce qui va se passer lors du retour de Jésus. Les morts en Christ vont ressusciter. Nous, on va aller les rejoindre si on est encore vivant à cette époque-là. Puis, il va se passer quelque chose à ce moment-là où on va rencontrer le Seigneur. Il dit, lorsque ce corps corruptible, pour ceux qui ne savent pas, un corps corruptible, c'est un corps qui est corrompu. Un corps qui pêche devant Dieu. Un corps que c'est facile pour lui de désobéir puis de faire le contraire de ce que Dieu veut. Il dit, notre corps qui est corruptible, il va revêtir l'incorruptibilité. On va avoir un corps qui n'aura plus de corruption possible. Un corps qui ne se corrompu. Puis que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, parce qu'on est appelé à être éternel dans un corps immortel, alors va s'accomplir la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Voyez-vous, là, de quelle victoire que ça parle? C'est la victoire de Jésus. Grâce à la victoire de Jésus, sa mort sur la croix, ça nous permet à nous un jour de pouvoir avoir un corps qui ne se corrompu, puis avec une vie immortelle. Ça va être quelque chose, ça. Là, on va dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Un aiguillon, c'est l'épée ou la lance qui te frappe parce que la mort frappait tous les hommes. Mais l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est à cause du péché que tout le monde s'en allait dans la mort. Puis la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, si un jour on ressuscite, pas si un jour, on va ressusciter, mais au jour que ça va arriver qu'on va ressusciter, puis qu'on va avoir un corps immortel, puis un corps qui n'aura plus de corruption, on va dire, c'est grâce à notre Seigneur si on est là aujourd'hui. Il a accompli sur la croix ce qui était nécessaire pour qu'on puisse se retrouver là avec lui. Parce que c'était impossible, on était des corrompus. On continue, il y a encore des belles affaires à comprendre sur sa victoire. Grâce à sa victoire, cela nous permet d'être protégés de la colère terrestre et de la colère éternelle de Dieu. C'est la même chose avec le peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël, ils ont eu le sang sur eux, l'ange de la mort a passé par-dessus. La colère ne les frappait pas. La colère a frappé ceux qui n'avaient pas le sang. C'est un exemple de ce qui va se produire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'autant que Dieu y est amour, mais Dieu y est en colère contre tous les humains qui ne se repentent pas. Il dit celui qui, il y a un verset, je pense que c'est Jean 3:36, qui dit celui qui a le Fils a la vie, puis celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Fait que Dieu est en colère contre ceux qui ne se repentent pas. Puis il y a un jour que Dieu a fixé qui va répandre sa colère sur la terre. Quand? On voit ça dans l'Apocalypse, quand il parle des sept coupes de la colère de Dieu qui va déverser sur le trône de la bête. Puis c'est tous les ceux qui vont être là dans cette période-là. Ça dit, par elle, ces coupes-là, Dieu va y accomplir sa colère. La colère de Dieu s'accomplit dans le déversement des coupes. Mais le fait qu'on est en Jésus, à cause qu'on a reçu la victoire qui est en Jésus, regardez bien dans Romains 5:9, ça nous dit, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? » Ça veut dire qu'on n'est pas destiné à la colère des coupes et la colère éternelle, parce que ceux qui vont, Dieu va leur dire, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. Il n'est pas de bonne humeur quand il va dire ça, il va dire ça à du monde, là. Puis il est en colère, la colère éternelle. Les gens ne pourront plus jamais sortir de là. Il y a un exemple de ça que le monde disait quand j'étais jeune. Il dit, quand tu rentres dans cet étang de feu-là, il y a comme un pendule qui dit toujours, jamais, toujours rester, jamais sortir. Ils pourront plus jamais, c'est des tourments jour et nuit au siècle des siècles. C'est pour ça qu'il faut s'empresser à avertir les gens. C'est quelque chose, ils ont besoin de connaître la grâce de Jésus. La grâce qui est offerte en Jésus-Christ. On continue grâce à sa victoire. Il ne reste plus grand point à regarder, mais c'est quand même... Il y en avait d'autres dans la Bible, là. Bon, on ne m'a pas toutes, mais c'est quand même super de voir tout ce que Jésus a accompli. Ce qu'on ne comprend pas qu'il a tout accompli quand tu dis « il est mort » à Pâques. « Il est mort ». Oui, mais si tu vas juste de même, il est mort, mais tu comprends pas la profondeur de cette œuvre-là qui s'est accomplie dans sa mort, les victoires qui ont été remportées. Grâce à sa victoire, cela lui a permis à Jésus d'être digne, d'être trouvé digne, d'ouvrir les sceaux de Dieu. Il n'y avait personne, il ne trouvait pas personne pour pouvoir ouvrir. Il n'y a personne qui était assez digne pour ouvrir les sceaux. Dans l'Apocalypse, au chapitre 5, à partir du verset 2, ça nous dit, « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre puis d'en rompre les sceaux? » Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Puis l'apôtre Jean dit, « Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. » Puis l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. » C'est quel agneau? C'est Jésus qui est l'agneau de Dieu. Il était là comme immolé. C'est ça qui est à l'image de l'agneau dans l'Ancien Testament à Pâques. L'agneau devait être brûlé, elle ne devait pas être bouillie, elle devait être immolée, brûlée. Les restes, il était brûlé. Jésus, c'est l'agneau qui était là comme immolé. Il y avait les sept cornes et les sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. C'est juste lui qui a été digne d'ouvrir les sceaux. Mais il a fallu qu'il remporte une victoire pour en être digne. Ça dit au verset 5, il a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Quelle victoire que ça parle, c'est d'avoir réussi, pas réussi, oui, c'est une façon de le dire. Il a réussi à mourir sur la croix. Par là, il a vaincu pour en être digne. Il fallait qu'il passe par là pour avoir la victoire. C'est quelque chose. On continue. Grâce à sa victoire, à Jésus, cela a permis de créer un royaume formé de gens sauvés qui régneront sur la terre et dans les cieux. C'est quelque chose, ça avec, c'est tout des quelque chose. Dans Apocalypse 5:9, il chante un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » Puis là, on voit ce qui est arrivé. « Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, puis ils régneront sur la terre. » Ça va être quand Jésus va revenir pour prendre son règne sur la terre. Il va écraser ses ennemis. Le diable va être enfermé pendant les 1000 ans, parce que c'est pas juste 1000 ans. C'est pas le règne de 1000 ans, c'est le règne des 1000 ans. Puis il va avoir la résurrection de tous les morts sauvés qui vont être avec Jésus pour venir installer son royaume, son règne sur la terre pour des milliers d'années qu'on va vivre sur la terre, puis on va régner sur la terre avec Jésus. Puis après ça, tu le vois dans l'Apocalypse plus tard, qu'on va se retrouver sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre, puis on va régner pour l'éternité. Ça va être quelque chose. Dieu s'est fait un royaume de rois et de seigneurs. Jésus, lui, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. On va régner avec le Seigneur pour l'éternité. Ça vaut-il la peine de servir le Seigneur présentement? Il faut vraiment que tu le voies par la foi pour comprendre cela. Puis là, tu vas dire, ça va à peine que je me consacre. Le petit bout de vie qu'on a à vivre, là, hein? Notre petit bout de vie qu'on a à vivre, c'est comme le petit temps qu'on a à vivre sur la terre. Après ça, on tombe dans l'éternité, ça n'a plus jamais de fin. Fait que là, Dieu dit, donne-moi le temps que tu as là. Puis moi, je te donne le temps éternel. Quand tu y donnes ta vie au Seigneur, là, puis tu décides de vivre pour lui, là, c'est un bon investissement. Puis il y a beaucoup d'intérêt que ça rapporte. Puis il y a un fonds de pension éternel incroyable. Fait que... on veut travailler pour notre retraite, travaillons pas pour notre retraite terrestre, travaillons pour notre retraite éternelle. Amen. Parce qu'il y a de quoi de big qui s'en vient. Ça va, on va le croire, mais en voulant dire, vous le croirez pas si on vous le racontait. Mais nous autres, on le croit, merci Seigneur. Mais il faut le croire assez au point de faire de quoi pour lui? D'obéir, de marcher avec lui. Un dernier point. Grâce à sa victoire, cela a permis à nous, comme ça lui a permis à lui, d'être assis sur le trône de Dieu. Dernier verset, Apocalypse 3, 21. celui qui vaincra. Ça nous parle à nous, frères et sœurs. Celui qui vaincra. Vaincre, là, ça veut dire pas juste de voter pour Jésus. C'est une question de s'engager à être un disciple de Jésus. Jésus a dit à du monde qui croyait en lui, il lui a dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Ça veut dire que si vous lâchez à moitié chemin ou vous ne voulez pas mettre en pratique ce que j'enseigne, c'est comme dans l'autre catégorie, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui ne font pas ce que Jésus dit. Mais si tu veux être un victorieux dans ta vie, faut que tu sois sincère avec le Seigneur. Tu t'es engagé à le suivre, suis-les. Il te demande de lâcher telle affaire, lâche-les. Lâche les péchés. Garde la foi jusqu'à la fin. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Amen. Persévérons dans la foi, dans l'obéissance, dans la sanctification. Parce que ça entraînait plein de monde dans le péché, puis ça les entraînait loin du Seigneur. Mais dans l'Apocalypse, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Wow. Wow. Comme moi, Jésus, il dit, comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Il s'est assis avec son Père sur son trône. C'est quelque chose. Nous, frères et sœurs, on est appelés à être une race royale, un peuple racheté, acquis par son sang. On est maintenant des enfants de Dieu par adoption. On est maintenant de la race des élus, de ceux qui sont appelés à être là. Faut pas lâcher, frères et sœurs. Demeurons fermes dans la foi, persévérons, servons le Seigneur de tout notre cœur. Tout est déjà acquis par Jésus. Tu as juste besoin de te donner. Amen. Y a-t-il des gens qui veulent se donner au Seigneur ici? On va prier ensemble. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. On croit en ta parole, puis on croit dans ce que tu as accompli sur la croix, Seigneur. On croit que tu es mort, puis tu as gagné toutes les victoires qui nous permettent aujourd'hui d'être là, puis pouvoir te servir, nous qui étions des ennemis. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois qu'on m'en oublie ce que tu nous enseignes, Seigneur, dans ta parole. Pardonne-nous toutes les fois qu'on est paresseux, puis qu'on te sert pas comme qu'on serait supposé de te servir. Pardonne-nous toutes les fois qu'on succombe dans le péché, Seigneur, qu'on s'éloigne de toi. Purifie-nous par ton sang, puis merci pour le sang que tu as versé à la croix qui nous permet d'être purifiés de toute iniquité. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit et conduis-nous dans la voie, dans le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Merci, Seigneur. On te rend grâce, puis on te rend l'honneur dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.